Ben, vous savez, l'été, c'est une période particulièrement chaude, et chaude dans tous les sens. Hein. Les activités sont nombreuses, et nombreuses aussi les occasions de faire la fête. Et dans la communauté gay, ben, ça ne fait pas exception. Alors, nous allons parler d'un sujet qui touche la communauté gay, mais aussi les hommes gays et bisexuels, les hommes gays, bisexuels, cis et trans. En fait, on va parler d'une nouvelle vague de dépendance à la drogue et au sexe, et on en parle avec M. Dumont. En fait, c'est parce qu'on m'avait écrit votre nom au complet, parce que j'avais Dumont Blais, mais c'est pas ça.
C'est ça.
C'est Dumont-Blais?
Dumont-Blais, Alexandre.
Alexandre Dumont-Blais, c'est voilà. Ça, il manquait.
Le prénom.
Il manquait un bout, voilà. Alors donc, vous êtes de l'organisme Réseau.
Réseau, hein, exact.
C'est ça, et puis bon, alors c'est ça, directeur général, et puis c'est toujours cet organisme Réseau qui s'est toujours intéressé à la santé, au mieux-être des hommes gays et bisexuels, cis et trans. Alors, vous fêtez vos 30 ans cette année?
Tout à fait. Cette année, on a beaucoup d'activités et d'événements pour souligner les 30 ans de l'organisme. D'ailleurs, merci de nous accueillir pour en parler. Vous l'avez dit, l'été, c'est une période très occupée pour tout le monde, surtout pour nous dans le milieu communautaire. Mm-hmm. Qui dit printemps, dit sortie, dit voir les amis et tout ça. Donc, pour nous, à partir du printemps jusqu'en septembre, c'est l'occasion de souligner les 30 ans. On va clore ça avec un événement festif. En septembre, mi-septembre prochain.
D'accord.
Avec près de 200 personnes et tout. Et d'ici là, bien, c'est nos activités régulières de prévention, ITSS, VIH, nos différents programmes qui continuent. Bien sûr, des présences à Fierté Montréal qui commencent le 1er
août.
Mais oui,
ça s'en vient. Alors, c'est sûr que là aussi, il y aura plein d'activités, plein d'occasions de faire la fête. Alors, c'est important que vous soyez là toujours pour faire également de l'éducation, de la prévention et tout. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez votre mission au départ, là, si on remonte il y a 30 ans, ça répondait à l'époque à un grand besoin. Bon, les besoins qui sont toujours aussi grands, les besoins qui sont changeants aussi?
C'est clair, c'est évolutif. Même au niveau de la santé publique, tous les enjeux évoluent. Il y a 30 ans, Réseau, qui s'appelait d'ailleurs 0-0 à l'époque, pour séropositivité zéro, l'axe au cœur de l'organisme était de cesser les nouveaux cas de sida. À l'époque, on parlait sida et non pas du VIH. À travers les années, à travers les décennies, la mission de Réseau s'est élargie. Donc, en 2010-2011, le nom de l'organisme a changé pour aller à Réseau. Plutôt que Action 00, parce qu'en 2010, après, dans le fond, 20 ans, deux décennies, les traitements VIH sont arrivés. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par rapport à ça et on parle beaucoup plus de VIH, dans le fond, que de SIDA à partir des années 2000 déjà et 2010. Donc, élargissement de la mission pour parler non seulement de santé sexuelle, parce que c'est le cœur de la mission de Réseau à la base, tu sais, prévention ITSS, VIH, mais c'est aussi de voir ça dans un contexte de santé élargie. Ce que des études ont démontré et différents projets de recherche auxquels Réseau a contribué aussi dans les dernières années à différentes universités au Québec, c'est que quand on parle de prévention ITSS, VIH, quand on parle de prise de risque dans sa santé sexuelle, il y a des raisons sous-jacentes à cela et il faut s'attarder aussi à ça. Pas juste à dire d'utiliser des stratégies de prévention comme le condom, la PrEP ou la PPE ou de prendre son traitement VIH si on vit avec le VIH. C'est d'aller plus loin que ça, quelles sont les raisons derrière. Donc, on parle de santé mentale, on parle de FOMO bien intériorisé, on parle de consommation,
de drogue,
d'alcool et de drogue dans un contexte de sexualité ou non. Ça amène différents enjeux à ce moment-là de transmission. Quand on a consommé, est-ce qu'on a les capacités pour prendre les meilleures décisions pour soi, pour sa sécurité? Des enjeux de consentement à ce moment-là dans des relations sexuelles. C'est des sujets qui sont discutés partout dans la société, hein, mais qui sont pour nous, qui amènent des couches de spécificité et qui requièrent des services adaptés pour comprendre la dynamique entre ces différentes couches. Donc, effectivement, on est beaucoup dans des programmations comme ça à Réseau depuis quelques années. On a lancé des campagnes sur le consentement entre hommes il y a quelques années, sur la violence entre hommes également.
Des choses qui étaient un peu occultées aussi jusqu'à un certain point auparavant. On n'y pensait pas, c'est-à-dire qu'il y avait autant de violence. On pensait juste dans des relations hommes-femmes.
Exact. Puis tu sais, Notre idée, c'est pas de faire des comparaisons, mais c'est sûr qu'on y arrive à le faire. Mais le sujet entre hommes était très tabou, même encore aujourd'hui. Quand on a sorti la campagne consentement entre hommes, c'était quelques mois après le MeToo. Ça a pris quelques mois avant qu'on sente que le sujet revient dans nos interventions. Je pense que ça a ouvert la porte aux réflexions et nous, on s'est dit comment on peut articuler des messages par rapport à ça. Donc, on a développé une campagne sur le consentement entre hommes, mais effectivement, c'est un sujet qui était très tabou. Puis, la campagne la plus récente qu'on a lancée en fin mars dernier, c'est sur le racisme sexuel. Donc, pour expliquer en quoi une forme de racisme sur les applications mobiles peut avoir des impacts sur la transmission du VIH ou autre ITSS. Et c'est le cas des personnes racisées qui ont de la difficulté à avoir des partenaires en raison d'une forme de racisme qui s'opère, bien, vont être plus enclins à avoir des relations à risque ou c'est aller ça. Vers des partenaires pour avoir des relations, comme tout le monde a besoin de sexualité dans sa vie. Donc, ce racisme qui continue sexuel a des impacts sur la santé, non seulement psychologique, mais aussi sexuel dans ce cas-là. Donc, c'est ce qu'on a voulu démontrer avec cette campagne qu'on a lancée large public.
Il y a comme une forme d'abus, finalement, parce que ces gens-là sont plus vulnérables à cause de ce racisme-là.
Et je reviens aux couches, c'est l'intersectionnalité de différents enjeux, effectivement. Donc, on essaie d'aller, surtout dans les dernières années à Réseau, d'aller plus loin dans les différents enjeux simultanés que les communautés peuvent vivre, puis de développer des programmes adapté pour chaque communauté.
Ouais. Et la clientèle qui s'élargit, parce que là, on ne parle pas que des hommes gays. Au niveau des trans, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus vaste. Là.
Bien, à Réseau, on avait fait un plan d'inclusion trans il y a déjà quelques années. Et effectivement, on est en réflexion sur la non-binarité dans les services à Réseau. Effectivement, il faut être un peu en raccord avec l'évolution
de la
des
société.
Identités ouais. selon... pour respecter l'identité que les personnes, comment elles se définissent. Mais c'est aussi les communautés, mais aussi les enjeux qui sont multiples et qui ont des intersectionnalités, comme je disais, avec d'autres enjeux. Donc, on travaille beaucoup avec d'autres organismes communautaires aussi, avec plusieurs partenaires pour développer nos programmes, et surtout avec les personnes issues des communautés, pour être certain que le programme qu'on développe ou la campagne qu'on développe, mm-hmm. elle répond vraiment à des besoins.
Aux besoins, oui.
Et qu'il y a un niveau d'acceptabilité sociale aussi dans ce genre de campagne ou de programme.
Eh bien, c'est copieux, hein? Puis je vous laisse aller parce que vous connaissez bien votre sujet et c'est fort intéressant. Donc, où en sommes-nous là depuis 30 ans? Là? Bon, maintenant, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce qu'il y a une ouverture d'abord? Est-ce que les gens sont de plus en plus conscients? Est-ce que, justement, les gens sont conscients de l'importance de se protéger? Comme vous dites, il y a des enjeux très importants, consommation, alcool, drogue et tout et tout. Et là, il y a une nouvelle tendance là, qui se dessine, finalement, aussi la prise de drogue avec le sexe. Mais enfin, il s'agit de drogues qui sont des espèces de suppléments de testostérone ou enfin des hormones. C'est quand même quelque chose.
Bien, je dirais que c'est clair que depuis quelques années... l'enjeu de consommation d'alcool et ou de substances est présent et de plus en plus présent pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des consommations récréatives qui ne causent aucun problème chez les personnes. Par contre, il peut y avoir aussi des consommations qui sont plus problématiques. Donc, on est dans la réduction des méfaits à Réseau. C'est l'approche, en fait, qui est, à notre avis, gagnante dans le milieu communautaire. C'est pas de dire à une personne « tu dois cesser de consommer », c'est d'accompagner la personne où elle est et puis d'avancer dans un soutien en fonction des besoins de la personne et voir les impacts que la consommation peut avoir sur la vie de la personne et puis y aller petit à petit parce que ça amène toutes sortes d'enjeux. Et ce qu'on constate aussi, c'est au niveau de l'accès à des ressources. Une personne qui a des relations sexuelles avec un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui a un enjeu de consommation, qui va dans les ressources de santé publique où tout le monde va, si je peux m'exprimer ainsi.
C'est pas
souvent,
peut-être.
Ce qu'on entend, c'est que ce n'est pas un endroit nécessairement idéal pour la
adapté
personne.
Pour eux, ouais.
Même si on sait que plusieurs personnes font de leur possible, c'est juste que quand on va préconiser, par exemple, de l'abstinence sexuelle, c'est pas nécessairement une solution pour
non
la
plus.
Personne. Alors, donc, on est beaucoup dans un enjeu aussi d'adapter les ressources, puis d'exiger, puis revendiquer des ressources peut-être propres à nos communautés pour qu'on puisse avancer plus rapidement et qu'on n'ait pas en même temps par la bande à finalement éduquer ou s'assurer que ce soit un environnement qui est sécuritaire.
C'est ça.
Donc ça, c'est un gros enjeu aussi dans les dernières années.
Alors, vous vous souciez vraiment de la santé et du mieux-être de tous ces hommes, finalement. Et puis, en même temps, il y avait un petit service que je trouvais fort intéressant. Là, c'est un service de livraison aussi que vous assurez toujours durant l'été?
Ou quoi? La livraison du matériel de prévention, condoms ou matériel de consommation, on avait fait ça pendant la COVID parce que, bon, on ne pouvait pas recevoir des personnes. Fait que oui, on avait organisé ça. Il y a d'autres organismes aussi communautaires qui avaient fait preuve de créativité pour continuer à offrir, surtout pour livrer des seringues pour les injections d'hormones pour les personnes trans qui n'avaient pas accès à leur centre de santé. Par contre, là, tout a rouvert et on peut faire du service contact direct. Donc,
d'accord,
on continue de distribuer, bien sûr, le matériel de prévention, que ce soit ITSS, VIH ou consommation.
Intéressant. Alexandre Dumont-Blais, directeur général de l'organisme Réseau, qui s'intéresse donc à la santé et au mieux-être des hommes gays et bisexuels, cis et trans. Alors, merci de venir nous en parler parce que c'est important et surtout avec les événements avec l'été. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent. Alors, vos 30 ans qui seront célébrés aussi, il y a des événements qui s'en viennent. On s'en va sur votre site pour avoir tous les détails.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Au revoir.
Au revoir et passez un bon été.
Vous aussi.
Au revoir.